Il est 18h, bienvenue sur Europe.
Ce sont bien les politiques qui font la loi, mais ce n'est pas la haute fonction publique qui fait la loi et qui parfois pour court-circuiter les politiques.
Marche arrière toute, le Premier ministre renonce donc à ce qu'une commission se substitue aux députés pour réécrire le fameux article 24.
Après le tollé au sein de la majorité, on est à deux doigts d'une crise institutionnelle.
Pas de commission donc, mais Gérald Darmanin ne lâche rien. Il ne veut pas retirer cet article.
La délivrance pour les commerçants qui espèrent repartir sur les chapeaux de roue à partir de demain, 7 jours sur 7 jusqu'à Noël.
La délivrance aussi pour les promeneurs et les sportifs. On pourra marcher ou courir jusqu'à 20 km autour de chez soi et pendant 3 heures.
L'appel à la générosité des Français, la collecte annuelle des banques alimentaires a démarré aujourd'hui.
Et puis les Bleus du foot au féminin affrontent l'Autriche ce soir avec qui elles partagent la première place de leur groupe dans la course à l'Euro à 2 matchs de la fin des qualifications. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,56% à 5 598 points.
Anissa pour la tendance météo. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Vigilance demain dans le sud.
Oui, nous avons d'ailleurs dès ce soir 3 départements placés en vigilance orange, pluie, inondation dans le sud. Le week-end s'annonce donc agité sur le golfe du Lion. Ailleurs, le temps sera calme, ensoleillé. Ça sera une belle journée automnale. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et d'abord donc ce revirement. Jean Castex renonce à demander à une commission indépendante de réécrire l'article 24 à la place des députés.
Oui, annonce qui a provoqué un torrent de critiques, en particulier dans les rangs de La République En Marche, la majorité donc. D'où ce rétropédalage de Jean Castex, Jean-Rémy Baudeau.
Oui Julien, on a vécu une journée un peu folle d'un point de vue politique et institutionnel. Reprenons brièvement. Hier soir, le Premier ministre annonce qu'il met en place, sur proposition de Gérald Darmanin, une commission pour tenter de réécrire le très controversé article 24 de la loi Sécurité globale. Une manière de sortir par le haut, sauf que de très nombreux députés ont commencé à publiquement fustiger cette idée. Même le gouvernement se déchire. Il a réussi à se mettre tout le monde à dos, résume sobrement un pilier macroniste. Car selon nos informations, hier soir, même Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, en visite à l'Élysée, a alerté Emmanuel Macron sur le sujet. Ce matin, finalement, les deux présidents des deux assemblées s'opposent chacun à leur tour à cette commission, dénoncent une entrave aux droits du Parlement. Matignon répond dans l'après-midi, l'idée est enterrée, la commission ne réécrira pas l'article. Alors tout ça peut paraître technique, Julien, mais il faut comprendre ce qui s'est joué récemment. Cet article 24, il n'était pas dans la loi initialement, il a été rajouté par le ministère de l'Intérieur dans l'idée de soutenir les policiers. Et alors qu'il est décrié, Beauvau pousse Matignon à finalement le réécrire, ce qui en fait est impossible puisqu'un texte voté à l'Assemblée ne peut pas être modifié avant de passer au Sénat. Tout ça c'est l'illustration d'une semaine folle où, mise en difficulté, le ministre de l'Intérieur a tout fait pour tenter de faire passer son texte. Pour répondre à votre question initiale, l'entourage du patron de l'Assemblée résume ainsi la séquence. Ça n'est pas une reculade de Castex, c'est Darmanin, l'auteur du péché initial.
Bien, merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Un rétropédalage salué en tout cas ce soir par Patrick Mignola. Il est le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, membre de la commission des lois.
Moi, je vais simplement faire remarquer une chose simple, c'est que en République française, en démocratie, c'est le Parlement qui fait la loi. C'est l'Assemblée nationale qui doit modifier une loi si elle doit être modifiée, et ce n'est pas un comité d'experts. Voilà, il faut redire les choses simplement. L'Assemblée nationale n'est pas un cas contact qu'il faut isoler quand il y a un problème, au contraire. Ce sont bien les politiques qui font la loi et qui s'appuient sur la haute fonction publique. Et ce n'est pas la haute fonction publique qui fait la loi et qui parfois pour court-circuiter les politiques. L'incident est clos. De toute façon, quand on est dans une famille, il faut savoir laver son linge sale publiquement s'il le faut, parce que c'est les étincelles qui font marcher les moteurs. Il y a eu un peu d'étincelles. Bon, le moteur ne marchera que mieux dans les mois qui viennent.
Voilà, Patrick Mignola, le président du groupe Modem à l'Assemblée, joint pour Europe 1 par Adrien Beck.
Un épisode qui intervient dans un contexte, on le sait, compliqué pour l'exécutif. Après cette grosse bavure policière révélée hier, ce producteur noir de musique tabassé par des policiers à Paris.
Ces derniers ont été convoqués à l'IGPN, entendus sous le régime de la garde à vue pour violences à caractère raciste. Pour 3 d'entre eux, ils sont déjà suspendus. Et si ces violences sont avérées, ils seront révoqués, dit le ministre de l'Intérieur.
Après l'évacuation musclée de migrants place de la République à Paris, cette nouvelle séquence risque-t-elle donc de fragiliser le ministre Gérald Darmanin ?
Le ministre de l'Intérieur qui sera auditionné lundi par la commission des lois à l'Assemblée. Louis de Ragnel, ce que vous nous dites ce soir, c'est que Gérald Darmanin assure en tout cas qu'il ne reculera pas sur cet article 24.
Eh bien non, Gérald Darmanin ne reculera pas. En tout cas, c'est ce que nous dit un de ses proches ce soir, pour qui c'est un sujet purement parisien. Il ajoute « attention à l'effet de loupe ». Il a l'opinion publique avec lui. Les sondages montrent que les Français soutiennent cet article 24. Même s'il est attaqué de toutes parts, à commencer par son propre camp, selon nos informations, Gérald Darmanin entend bien poursuivre sa stratégie de défense de sujets sensibles pour continuer de faire bouger les lignes. Et son entourage rappelle aussi qu'il a le soutien d'Emmanuel Macron. Si tous à l'Élysée ne sont pas de cet avis, plusieurs conseillers du président considèrent qu'à terme, on retiendra, malgré ses maladresses et ses erreurs, eh bien que Gérald Darmanin a tenu la ligne qui lui a été fixée et qu'il se bat. Le sujet concerne du coup, enfin et surtout, Emmanuel Macron et sa stratégie pour la prochaine campagne présidentielle. Le président le sait, son banc de touche est bien maigre pour essayer de trouver un éventuel remplaçant de Gérald Darmanin. D'autant que, venu de la droite, son ministre de l'Intérieur est jusqu'à aujourd'hui une pièce importante de la partition présidentielle pour essayer de continuer de siphonner son ancienne famille politique.
Eh bien, merci Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Le CCIF, le collectif contre l'islamophobie, qui était, souvenez-vous, menacé de dissolution par le gouvernement, annonce ce soir qu'il s'est autodissous.
Oui, il avait été accusé par le ministre de l'Intérieur après l'assassinat de Samuel Paty d'être une officine islamiste œuvrant contre la République.
L'affaire Carlos Ghosn suit à présent l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati placée sous le statut de témoins assistés.
Il s'agit de l'enquête sur des prestations de conseil auprès de l'ancien PDG de Renault-Nissan. Le procès de l'attentat avorté du Thalys suspendu dans l'attente des résultats d'un test Covid. L'un des prévenus est en effet malade. Et puis notez que le Conseil d'État a suspendu la possibilité de recourir à la visioconférence pour les procès d'assises sans l'accord des accusés. Possibilité instituée par une ordonnance controversée du gouvernement qui voulait que la justice tourne malgré la pandémie.
19h06, 19 km et 2 heures en plus qui font toute la différence.
Et oui, demain les Français ne devront plus compter leurs pas ou les minutes lorsqu'ils sortiront de chez eux. On pourra pousser jusqu'à 20 km de son domicile. Des sorties qui pourront aller jusqu'à 3 heures. Et pour Valentine, parisienne, qui avait des fourmis dans les jambes, eh bien ça change tout.
Oui, alors ça m'inspire juste pour aller me promener dans des espaces verts un peu plus grands que ceux qu'on trouve dans Paris intramuros, quoi. Donc pourquoi pas aller à Saint-Rémy-les-Chevreuses, etc., en dessous de 20 km, quoi, pour se faire des grosses balades le samedi.
Un peu vivifiant.
Ouais. Voilà, c'est ça. Juste oxygéner un petit peu plus que bah, ce qu'on peut faire ici dans Paris, quoi. Parce qu'il y a des parcs qui sont accessibles, mais on est très nombreux, quoi. En fait, le week-end, quand on va se promener au Montsouris, par exemple, on est très nombreux. Donc c'est pas... Parce que je travaille auprès des personnes âgées, c'est important que je ramène pas le virus à l'intérieur des locaux, quoi.
Au micro Europe 1 de Pierre Herbulot.
Valentine.
Et ce qui change aussi à partir de demain, c'est qu'on va pouvoir de nouveau faire ses courses dans les commerces dits non essentiels.
Oui, branle-bas de combat avant la réouverture demain, entre excitation et précaution pour les commerçants. Emmanuel Dutheil.
Ah, on est prêt, mais tellement prêt, tellement enthousiaste.
Cet enthousiasme, c'est celui de Julien Paulet. C'est le président de Promode et comme chez tous les commerçants, tout est prêt pour accueillir les clients et surtout pour les compter, pour respecter la jauge de un client par 8 mètres carrés.
On aura la jauge qui sera affichée à l'entrée des magasins et puis ce sera la responsabilité de nos équipes magasins de compter. Et dans certains magasins, nous avons des vigiles à l'entrée et donc ce sera leur responsabilité à eux. Ça concernera les magasins les plus critiques en termes de trafic.
Chez Mage, les équipes sont de retour depuis ce matin en magasin car c'est une réouverture quand même un peu particulière qui il a fallu préparer, selon la directrice générale de la marque de vêtements, Isabelle Guichot.
La cliente qui va arriver en magasin demain matin, elle a envie de voir des nouveautés, elle n'a pas envie de voir les choses qu'elle a vues préalablement. Elle a envie de voir quelques bonnes affaires, quelques coups de cœur du moment. Donc effectivement, on a dû repenser globalement l'équilibrage de nos collections, on a dû repenser à injecter de la nouveauté, on a dû repenser à remanier un peu l'agencement de nos magasins. Donc ça a été, c'est pas juste on ouvre la porte et on accueille les clients.
Tous, hein, en tout cas, ont un espoir que nous ayons envie de nous faire plaisir pour Noël après une année si particulière et du coup peut-être que certains dépensent un peu plus que prévu. Un moyen pour tous ces commerces de sauver un tout petit peu leur année.
Et on suivra ça bien sûr. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Cette année encore, plus que d'habitude, les banques alimentaires ont besoin de vous, ont besoin de nous. Elles ont lancé aujourd'hui leur traditionnelle collecte nationale.
Oui, pour venir en aide aux plus démunis, vous connaissez le principe, vous allez faire vos courses et vous achetez en plus de votre plein habituel un paquet de pâtes, une boîte de conserve, du chocolat par exemple, et vous les remettez à la sortie aux bénévoles des banques alimentaires.
Des petits gestes qui, additionnés les uns aux autres, vont permettre de constituer des stocks qui ont baissé de 20% en cette année de crise sanitaire.
Pierre Herbulot, vous avez suivi l'une des équipes dans un supermarché du 14e arrondissement de Paris. Et la bonne nouvelle, Pierre, c'est qu'apparemment, eh bien, les Français, cette année, semblent généreux.
Oui, dans le supermarché où je me trouve, les grands sacs prévus par la banque alimentaire se remplissent de dons à vue d'œil.
De la boîte de ravioli, des pâtes, du thon, du haricot, des céréales, du riz,
du chocolat,
du poisson en conserve.
Vincent porte le gilet rouge des bénévoles. Il multiplie depuis ce matin les allers-retours entre le supermarché et le centre de tri.
Ça démarre très bien. On est déjà à plus 50% par rapport à l'année dernière, le même jour. Et le vendredi est un grand jour pour la collecte alimentaire. Donc là, ça démarre très très bien. On est bien parti.
Alors, ce n'est que le premier jour. Ce n'est qu'un point de collecte. Il faut donc relativiser. Mais c'est vrai que les donateurs comme Aurélie semblent avoir conscience de l'urgence de la situation avec la crise sanitaire.
Je vais donner un petit peu plus et c'était important de participer à cette collecte. Oui, bah, cette année, ça a une résonance particulière. On sait que la pauvreté explose et on voit bien que dans les associations, il y a de plus en plus de bénéficiaires.
On fera les comptes lundi matin. D'ici là, Laurence Champier, directrice générale du réseau des banques alimentaires, n'a qu'un seul message à faire passer.
Donner, 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 la solidarité, c'est ce qui doit rester dans cette crise et qu'on se mobilise tous pour venir en aide aux plus précaires.
Et pour ceux qui évitent les magasins, cette année, la collecte se fait aussi en ligne sur le site monpaniersolidaire.org.
Merci. Pierre Herbulot de vente à un supermarché parisien.
Reprise des discussions commerciales aujourd'hui sur le Brexit pour éviter une sortie sans accord.
Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, se rend à Londres ce soir. Il y a urgence. Il ne reste que très peu de temps à Londres et à Bruxelles pour s'entendre sur un accord qui entrerait en vigueur le 1er janvier.
La Russie annonce avoir commencé à vacciner ses militaires contre le Covid.
Et avec le fameux vaccin Sputnik 5, vous savez, qui est actuellement en phase 3 des essais cliniques et qui est efficace, selon ses concepteurs, à 95%. Le début ce soir de la 12e journée de Ligue 1 de foot. Rennes reçoit Strasbourg à partir de 21h.
Du foot féminin également ce soir, Isabelle.
Et oui, l'équipe de France affronte l'Autriche à Guingamp. Match qualificatif pour l'Euro 2022. Match très important donc. Une victoire ce soir et c'est bon pour les Bleus, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est le match le plus important des Françaises depuis leur élimination en quart de finale du Mondial 2019 face aux États-Unis. Les Bleus, numéro 3 au classement FIFA, sont favorites. Elles n'ont pas encaissé le moindre but depuis le début de ces éliminatoires de l'Euro. Elles n'ont jamais perdu contre les Autrichiennes depuis leur première confrontation en 1999. Alors c'est vrai, il y a eu des tensions au sein de l'équipe, mais les joueuses se sont parlé en début de semaine à Clairefontaine. La sélectionneuse Corinne Diacre espère qu'elles mettront de côté leur vague à l'âme.
Si on doit venir en reculant, il ne faut pas venir. Voilà. L'équipe de France, il y a plein de gens qui aimeraient y être. C'est non seulement un honneur, mais c'est surtout un devoir. Et aujourd'hui, on a une qualification à aller chercher pour l'Euro 2022. On doit être concentré sur ça.
Et c'est aussi le message délivré par Noël Le Graët, le président de la fédération qui habite à Guingamp, est venu hier à l'hôtel des joueuses à Saint-Brieuc pour leur demander de gagner. Pour notre consultant Rénal Pedros, les Françaises ont le talent pour s'imposer.
L'équipe de France va se qualifier. Parce que l'adversité n'est pas aussi énorme que ça. Mais c'est sûr qu'après, il va falloir régler les choses.
Malgré tout, attention, il y a plusieurs absentes du côté des Bleus, notamment la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer. Et l'Autriche s'est montrée très accrocheuse au match aller en décrochant donc un match nul 0-0.
Allez les Bleus, et merci Cyril de la Morinerie. Coup d'envoi 21h.
Allez Isa, à tout à l'heure, 18h30 et 19h pour le journal. 18h14, un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce que l'épisode pluvieux dans le sud, il va se poursuivre.
Oui, nous avons actuellement, Julien, trois départements placés en vigilance orange pour pluie inondation. Il s'agit des Pyrénées-Orientales et des deux départements Corse. Et effectivement, dans ce secteur, le temps est agité. Et bien ce soir, cette nuit et demain, nous aurons toujours un temps agité sur les Pyrénées-Orientales, sur l'Aude et l'est de la Corse, car les pluies deviendront orageuses demain. Sur la Provence, le Languedoc et l'ouest de la Corse, là le ciel est très nuageux mais les pluies seront plus faibles. Dans l'après-midi, les pluies vont se renforcer, ça va vraiment devenir très agité. Le vent d'autant se calme mais attention, c'est le vent d'est cette fois-ci qui se lève et qui va souffler fort sur les côtes varoises. Sur le reste du pays, pas mal de grisailles le matin et du soleil l'après-midi. C'est une belle journée. Les températures dégelées sur le nord-est avec moins 2 à Épinal, moins 1 à Strasbourg, 0 à Clermont-Ferrand, 3 à Paris et 12 à Marseille. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 6 à 13 degrés au nord avec 11 degrés à Paris et 13 à 18 sur la moitié sud.
Merci Anissa, à tout à l'heure.